C'est à la fois une thèse que je viens de défendre et je dirais que c'est un petit peu inhabituel par rapport à mon travail, puisque moi je m'intéresse pas tellement en temps normal à la question du sens, mais plutôt à la question je dirais, du visuel paléolithique en tant qu'expression idéologique et donc en tant que marqueur culturel, et à mon avis un marqueur très sous-estimé aujourd'hui, encore aujourd'hui, et qui permet au contraire dans la mesure où on sait que ces moyens de représentation, on a parlé de codification, etc., renvoient à de l'idéologie, à des manières de voir. Il me semble qu'on a là, au fond, un vestige de langage qui est une opportunité, encore une fois, sous-exploitée pour tenter de définir justement des cultures paléolithiques par-delà la diversité de l'outillage, par-delà la diversité de la culture matérielle, qui dit évidemment des choses sur le plan culturel, mais qui reste aussi quand même assujettie à une fonction. La technique à cette limite-là. Et il me semble que là, la question du style est une question fondamentale. Donc je dirais que c'est une approche plus anthropologique du style, un petit peu indifférente d'ailleurs de la question du style comme outil chronologique. Je dirais que si ça peut aussi avoir cette fonction, pourquoi pas. Mais c'est d'abord le style perçu comme encore une fois, comme une production idéologique. Alors il se trouve que, en tant que production idéologique, elle a aussi à son crédit, la possibilité, il me semble, de pouvoir dire des choses de la société elle-même, sans doute plus qu'un burin. Et c'est sous cet angle-là que j'ai travaillé ces derniers temps. Et il me semble que, justement, en poussant un petit peu la réflexion, au fond, le style paléolithique, alors au-delà des histoires au-delà de la diversité des styles paléolithiques, mais le style pris d'une manière très très générique, disons, posait un certain nombre de questions par rapport à l'idée qu'on se fait de ces sociétés paléolithiques. Alors, ça, je vous en causerai plus tard. Il me semble que donc le trait tout à fait significatif et marquant de cet art paléolithique, c'est justement son intérêt pour l'imitation du réel. Et c'est quelque chose, à mon sens, de tout à fait inédit dans l'art des sociétés de chasseurs-cueilleurs. En tout cas, inédit avec cette constance-là, puisque la grande surprise, c'est qu'au fond, au lieu d'imaginer une évolution comme ça, quasi biologique, de l'art, avec des gens qui progressent, et puis au fur et à mesure de leur progression, qui arrivent aux Magdaléniens à faire des figures très naturalistes, on a vu qu'il n'en était rien, ce dont, sur un plan purement, je dirais, intellectuel, on pouvait se douter, mais on a eu la confirmation très concrète avec la grotte Chauvet, qui montre bien que, dès l'origine de l'art, la question de l'imitation est portée vraiment déjà à des sommets tout à fait prodigieux, hein. On a vu cette image plusieurs fois dans la matinée, mais enfin bon, vous pouvez une fois de plus vous attarder sur le cheval du premier plan pour percevoir à quel point cette question de l'imitation, en tout cas dévolue à la représentation animale, était une question tout à fait, une préoccupation tout à fait importante pour les gens de cette époque. Alors, ça commence avec Chauvet, mais 15 000 ans plus tard, on trouve des choses qui sont quand même pas tout à fait dégueulasses, à commencer ici par la grotte des Caïnes, donc on est en plein Magdalénien. Vous voyez notamment le cheval au premier plan, dont la tête est juste absolument phénoménale, hein, la description, même si la qualité de ma repro est pas formidable. Et si on continuait à détailler tout, bon, là, je prends l'exemple très emblématique de la grotte de Niaud, où on voit qu'avec une grande économie de moyens, bon, des gens sont capables de faire ressortir tout un tas d'informations absolument d'une finesse d'observation assez extraordinaire. J'insisterai là très rapidement sur la manière dont, juste par des hachures d'orientation comme ça légèrement inversées, le type réussit à créer, à rendre à la fois le pelage des animaux, mais à exprimer de manière parfaitement subtile son modelé au niveau de la croupe, au niveau de l'encolure, etc. Donc, cette question du naturalisme, à mon avis, est donc une tendance lourde de l'art paléolithique, et je pense qu'elle elle, elle a une résonance très importante aussi sur le plan sociologique, puisque, au fond, si on regarde un tout petit peu la place de l'imitation dans l'histoire de l'art, on se rend compte que cette imitation est liée en général à un certain type de société. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça au bon gré du talent individuel, mais que c'est quelque chose qui est encouragé par un certain type de société. Et au fond, on a le sentiment, toujours au regard de l'histoire de l'art, que ce naturalisme est une sorte une manière, alors là je vais parler de manière très, très générale, mais une manière déjà de s'approprier le monde. Hein. C'est déjà, par l'imitation, par la vraisemblance, par la ressemblance, c'est déjà, on sent déjà une forme d'appropriation du monde, de domination, et on sait bien que ce naturalisme, généralement, il était une source de prestige par le talent, par la virtuosité qu'il implique et par le fait qu'il provoque une forme de jouissance visuelle qui crée du prestige. Et donc, en général, je dis bien en général, ce naturalisme est plutôt le fait de sociétés qui sont dirigées par une minorité. C'est pas, le naturalisme n'est pas une condition du rituel, hein, on voit très bien, et c'est ce qui fait justement la singularité de cet art imitatif par rapport à l'art des chasseurs-cueilleurs en général, que on a des choses habituellement beaucoup plus symboliques, qui ne s'acharnent pas du tout à décrire vraiment dans le détail, par le menu, les éléments les plus, éventuellement même les plus anecdotiques. Et donc, encore une fois, je suis déjà frappé, je dirais, dans un premier niveau de lecture, par le fait que on a là quelque chose de très atypique qui renvoie pour moi déjà à l'expression, à un désir, je dirais, quasiment d'ordre politique, hein, c'est-à-dire une fonction de prestige qui viendrait s'ajouter, si vous voulez, à des préoccupations rituelles que je ne nie pas du tout, d'ordre voilà, religieux, des croyances diverses, etc. Mais il y a quelque chose en plus qui n'était pas une obligation et qui est ce désir imitatif qui vient s'ajouter à ça et qui, à mon avis, encore une fois, trahit spontanément des préoccupations d'ordre plus politique, c'est-à-dire la manière de valoriser une classe dominante, une élite, une forme de noblesse, etc. En tout cas, si je me réfère à ce que je connais de l'histoire de l'art, c'est ce qu'on trouve notamment dans la Grèce athénienne ou plus tard dans les cités-états de Toscane, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui, à mon avis, corrobore ce sentiment, c'est le fait que pour arriver à ce niveau de science, puisque là, on a vraiment affaire à des gens qui sont vraiment d'un niveau de savoir-faire tout à fait exceptionnel, il me semble que c'est pour atteindre un tel niveau de compétence, ça passe nécessairement par un apprentissage, et un apprentissage qui, à mes yeux, est un apprentissage de longue durée. Autrement dit, pour développer une telle connaissance du médium, développer des solutions plastiques, notamment dans le rendu tridimensionnel, puisque c'est, quand je parle de naturalisme, c'est quand même ça l'élément tout à fait frappant et caractéristique de cet art paléolithique, c'est-à-dire que depuis le début jusqu'à la fin, il y a cette volonté très forte d'expression tridimensionnelle qui n'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Et d'ailleurs, c'est justement quelque chose qu'on ne rencontre pas de manière très, très, très courante dans les autres sociétés de chasse et de cueillette. Tout cet investissement considérable a demandé à être appris, à être travaillé. Or, si vous voulez, si on admet qu'il y a une forme d'apprentissage et donc de spécialisation, ça pose le problème, encore une fois, de l'unité de ces groupes paléolithiques. C'est-à-dire que la question qui est posée est celle de savoir si est-ce qu'il y a bien spécialisation, et s'il y a spécialisation, très vraisemblablement, on peut imaginer déjà une forme de hiérarchie ou en tout cas de division sociale du travail qui pose la question de la hiérarchie, c'est-à-dire le fait que manifestement, tout le monde n'avait pas les mêmes compétences, le même savoir. Et donc, ce discours, si vous voulez, s'oppose de manière très radicale à ce qui est le discours officiel, habituellement, en préhistoire, puisque la préhistoire, alors là, je parle de manière très générale, hein, on peut avoir des points de vue, certains de mes collègues peuvent avoir des points de vue différents, mais d'une manière générale, quand même, on reconduit beaucoup l'idée que les groupes paléolithiques vivaient dans des sociétés dépourvues d'inégalités, de disparités socio-économiques, où les compétences étaient partagées. Ça ne voulait pas dire qu'il y avait des gens qui n'étaient pas plus compétents que d'autres dans telle ou telle activité, mais où, en gros, il n'y avait pas de différence de statut particulière. Ce postulat, puisque évidemment les preuves pour parler du social paléolithique sont tout à fait absentes, mais ce postulat repose en fait beaucoup sur l'idée très répandue aussi que les inégalités sociales, au fond, sont apparues avec le passage à la production, c'est-à-dire le fait que la production, c'est-à-dire à partir du néolithique et au-delà, avec les âges des métaux, le fait que s'est enclenché, si je puis dire, un moment fatidique, et peut-être d'ailleurs fatidique y compris pour nous aujourd'hui, où des gens se sont mis à produire, donc à s'approprier la terre, ses ressources, et à créer les premières vraiment inégalités de richesse conséquentes, et qu'à la suite de ça, l'enchaînement fatal avec les premiers États, les premiers empires, etc., n'a fait que s'amplifier. Voilà, alors ça c'est le point de vue de départ, et donc la préhistoire est très installée, je dirais la préhistoire ancienne est très installée dans cette idée que, bien, donc avant le néolithique, la question elle ne se pose pas, qu'on a affaire donc à des chasseurs cueilleurs égalitaires, et elle est en cela, je dirais, confortée par le fait qu'elle fait appel dans ses référentiels ethnographiques effectivement à des groupes dont on peut dire que ce sont des groupes qui manifestement ne présentent pas d'inégalités patentes. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à l'intérieur de ces groupes des autorités ou des chefs. On peut se poser effectivement plus généralement la question de savoir si la notion d'égalité existe totalement dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais où en gros on voit quand même que il y a une prégnance du groupe dans sa globalité, et que les gens qui tendent à prendre un petit peu trop le pouvoir en général sont remis assez rapidement à leur place. Et donc la préhistoire s'appuie beaucoup sur ce type de référentiel ethnographique qu'on trouve, par exemple, du côté des aborigènes australiens, où on nous dit que dans leur mode d'organisation, la notion de propriété est quasiment absente. Ça vaut aussi pour les San, même s'il y a sans doute des ambiguïtés, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà typiquement un exemple de type de société qui sert de référentiel à la description des groupes paléolithiques. Donc la question est de savoir si au fond ce que me disent les images, ou en tout cas la lecture que j'en ai, est-ce qu'au fond c'est une lecture erronée, ou est-ce qu'au contraire ce schéma de l'égalitarisme paléolithique est le bon. Et donc j'ai essayé de pousser un tout petit peu plus loin la réflexion en réétudiant les données archéologiques. Et il me semble que les données archéologiques elles-mêmes, même si elles ne permettent évidemment pas de trancher dans une hypothèse plutôt que dans une autre, elles trahissent quand même un certain nombre d'ambiguïtés, et que ces ambiguïtés, voilà, font que je pense que l'hypothèse de société paléolithique déjà très hiérarchisée n'est pas quelque chose de forcément invraisemblable. Alors, le premier argument, en tout cas moi qui m'a presque surpris quand j'ai commencé cette recherche, c'est le fait de prendre connaissance de l'existence de chasseurs-cueilleurs hiérarchisés, puisqu'encore une fois, moi en tout cas au cours de ma formation, le discours officiel faisait état de petits groupes égalitaires, comme je viens de le dire, mais ne mentionnait pas particulièrement, en tout cas il n'y avait pas une promotion excessive sur cette notion de chasseurs-cueilleurs hiérarchisés. Et je dois dire que c'est à la lecture et la relecture de travaux de certains anthropologues, et notamment des travaux d'Alain Testard, que j'ai découvert qu'il y avait tout un pan de ces sociétés de chasse et de cueillette qui se manifestaient au contraire par des disparités socio-économiques extrêmement importantes, et je dirais même tout à fait comparables à celles qu'on trouve dans les premières sociétés agricoles. Un document donc qui est tiré d'un ouvrage tout à fait instructif en la matière d'Alain Testard, qui s'intitule « Les chasseurs-cueilleurs ou l'origine des inégalités ». Je crois que le débat est tout de suite placé, situé. et dans lequel il montre donc que ces chasseurs-cueilleurs inégalitaires ne sont pas du tout une petite minorité marginale, mais constituent au contraire des exemples très nombreux et qu'ils auraient même presque tendance à représenter plutôt la norme, à le lire. Alors là, la carte est relativement ancienne, parce que c'est un livre de 82, on pourrait l'affiner un tout petit peu, mais vous voyez donc qu'il y a différents groupes qui sont répartis dans différents endroits du globe et qui ont une économie, pour les uns centrée sur la pêche, pour l'autre sur la chasse aux mammifères marins et pour les troisièmes sur la cueillette des végétaux. Les choses ne sont pas aussi segmentées et on peut avoir des comportements évidemment complémentaires. Vous remarquerez aussi que la plupart de ces chasseurs-cueilleurs stockeurs, et je vais venir plus en détail sur cette notion, donc de chasseurs-cueilleurs théoriquement inégalitaires, sont localisés majoritairement, très majoritairement, dans l'hémisphère nord. Bon, ça, c'est un point à prendre en compte, s'agissant des interrogations qu'on peut porter sur le paléolithique supérieur eurasiatique. Alors, la question du stockage, et là, il revient vraiment à l'intestar, en tout cas pour ce qui est de la France, d'avoir vraiment, au fond, institué un véritable paradigme, hein, puisqu'il a montré qu'au fond, les inégalités sociales n'étaient pas... c'était pas la production en soi qui était la source des inégalités sociales, c'était le stockage. Et le stockage, ça vaut pour les ressources domestiques comme pour les ressources sauvages. Je veux dire par là que la thèse de Testard, elle est de montrer que les groupes qui sont amenés par leur économie à faire des stocks alimentaires de manière massive, vont développer des inégalités, une forme de hiérarchie, avec des classes, ou en tout cas des séparations importantes, sur la base du stockage, y compris de stockage de ressources sauvages. En revanche, et là Testard insiste aussi beaucoup sur ce point, il montre que le comportement vis-à-vis du stockage n'est pas quelque chose de spontané. Il semblerait qu'il y ait une forme de déterminant, si vous voulez, géographique, oui, qui se comprend d'ailleurs assez aisément, qui va pousser certains groupes plutôt que d'autres à stocker. Et ce déterminant, si vous voulez, il repose d'une part sur l'abondance locale de ressources, mais le fait, et ça c'est très important, que ces ressources soient saisonnières. C'est-à-dire que c'est l'articulation, si vous voulez, entre abondance et phase de pénurie qui va, et on comprend bien pourquoi, pousser certains groupes humains à stocker des aliments et à stocker de manière massive. D'où le fait que la plupart de ces groupes stockeurs se trouvent dans des régions où la saisonnalité est excessive et très marquée. Voilà, absolument. Donc là, c'est un élément très important, et je serais presque tenté de dire, même si ce n'est pas un argument en soi suffisant, mais je me demanderais bien pourquoi les chasseurs-cueilleurs du paléolithique supérieur auraient échappé à cette règle, qui est par ailleurs démontrée par Alain Testard sur des exemples historiques et éventuellement préhistoriques. Alors, un des exemples les mieux documentés de cette économie de prédation, mais qui fait appel au stockage, hein, c'est celui des Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique, qui a été notamment le grand terrain d'ethnologie de Franz Boas, et qui a été vraiment un des terrains fondateurs de l'anthropologie sociale américaine. Et donc je vais partir de cet exemple-là qui est le mieux connu pour observer un tout petit peu comment les choses fonctionnent dans ce type de société et quelle différence on peut trouver par rapport justement à des groupes dits égalitaires. Ces groupes, donc là, de la côte nord-ouest, donc ils ont une économie fondée sur le stockage, et le stockage d'une matière première en particulier, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas du tout au reste, mais d'une matière première excessivement abondante et excessivement saisonnière, qui est le saumon. C'est-à-dire que ces groupes vont, notamment aux périodes de frais, récolter des quantités tout à fait phénoménales de saumon, qui vont ensuite conserver, généralement par un simple fumage, et conserver ensuite pour la période hivernale, voire même au-delà, dans tout un tas d'outils qui dédient à cette fonction de stockage. Il faut imaginer, encore une fois, que les stocks sont tout à fait gigantesques. Il y a des descriptions qui sont très amusantes de l'époque des premiers contacts, où les gens disent que dans certaines rivières, dans les estuaires et dans certaines rivières, on pouvait pratiquement marcher sur l'eau tellement la quantité de saumon était importante. Donc autant vous dire que les gens qui vivaient dans cette région ne se sont pas privés, ont fait des stocks considérables de saumon et les ont conservés. Et il semblerait que cette économie du saumon ait donc conduit des familles à s'approprier les territoires, les ressources qui vont avec, et au fond, de fil en aiguille, si je puis dire, à développer tout un tas de mythes, de croyances, destinées, enfin, qui exprimaient à la fois leur rapport au monde, mais aussi destinées à légitimer, en quelque sorte, leur appropriation de ces ressources vis-à-vis d'autres groupes et vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, et c'est là où on voit la proximité, Lévi-Strauss décrit ces sociétés comme déjà des sociétés à maison, c'est-à-dire des sociétés qui fonctionnent selon un mode d'organisation centré sur à la fois l'habitat, mais aussi le territoire perçu comme une entité propre, presque comme un individu. Et c'est tout à fait le cas sur concernant les sociétés de la côte nord-ouest, où on voit très bien vraiment des familles, des lignages qui font corps complètement avec le territoire et donc s'approprient les ressources. Et donc voilà, ça c'est un point qui est extrêmement important à retenir, parce que voilà, il me semble que là on est vraiment dans une logique tout à fait singulière. Et il se trouve que ces mythes d'origine, toutes ces croyances vont donner lieu à une production artistique extrêmement abondante destinée justement à servir les intérêts de cette classe dominante, et qui se manifeste par notamment un espèce de totémisme, mais qui s'apparente plus à de l'héraldique, toujours dans la logique de proximité avec ce qu'on connaît sur le plan historique, où des animaux, puisque ce sont essentiellement des animaux qui sont choisis pour ça, vont servir au fond d'emblème, dans un rapport donc de sacralisation du lignage, où les animaux représentent des ancêtres mythiques qui sont la propriété du groupe familial, et donc qui légitiment totalement, par le sacré, je dirais, leur souveraineté sur les territoires et les ressources. Et sur cette image, vous voyez, qui est un document, je n'ai pas le temps de le détailler, mais qui est tout à fait vraiment révélateur de ce type, à la fois d'économie et ses conséquences sur le plan politique. Vous avez donc un chef au premier plan avec son fils qui tient un cercle. On pourra en parler à l'occasion. Et puis, vous voyez sa garde rapprochée autour. Tout ça dans sa maison. Et vous voyez toutes ces sculptures, toutes ces statuaires qui l'entourent et qui sont le signe de son statut social considéré comme tout à fait sacré. Alors, voilà, ça c'était pour ce qui est du référentiel ethnographique. Je vous ai dit que la condition du stockage, était tributaire d'une part de ressources abondantes et de leur caractère saisonnier, et donc de la brièveté, si je puis dire, de leur présence. Alors je me suis intéressé au fait de savoir si on pouvait transposer donc un tel cas de figure au paléo supérieur, et au fond de savoir si il existait non seulement des ressources abondantes et si elles étaient saisonnières. Alors on décrit très souvent le paléolithique, on a décrit, parce que c'est en train de changer depuis quelques années, mais on a décrit le paléolithique eurasiatique très souvent comme une espèce de contexte particulièrement difficile, de steppe peu hospitalière, avec des ressources ingrates, quand ce n'était pas un désert polaire qui envahissait l'Europe, etc. Alors il est indéniable que les conditions étaient rigoureuses, on le sait très bien, Mais on sait aussi de plus en plus aujourd'hui que il y avait une originalité de ces conditions climatiques, puisque à la fois les températures étaient inférieures aux nôtres environ d'une dizaine de degrés en moyenne, mais elle s'était compensée en quelque sorte par une absence totale une absence très générale de pluie et le fait qu'il y avait un ensoleillement, semble-t-il, très fort à cette époque. Et d'après certains modèles qui sont attachés à reconstituer l'environnement de l'époque, il semblerait que ce milieu, au fond, ne ressemble à aucun autre de ceux qu'on connaisse aujourd'hui. Donc les exemples qui servent, en général, qui proviennent de paysages, de l'Arctique, etc., ne renvoient pas tout à fait à ce décor, si je puis dire, dont on pense qu'il était au contraire fait d'une steppe, qu'on appelle la steppe à mammouth, une steppe herbeuse qui était extrêmement riche et qui pouvait accueillir, en tout cas dans les régions moyennes de l'Europe, qui pouvait accueillir d'innombrables troupeaux d'herbivores. Et donc, contrairement à ce qu'on a imaginé, les ressources de l'époque étaient loin d'être négligeables. Alors, vous avez ici, donc, de manière extrêmement schématique, je dois dire, une espèce d'aire d'extension comme ça de cette steppe, qui partait de l'Atlantique et qui s'étendait jusqu'à l'Oural et même au-delà. Et donc, des reconstitutions ont été faites et elles proposent donc un scénario qui est différent, je dirais, de ce qui a longtemps été pensé, hein, puisque on associe le milieu de l'époque à une biomasse qui serait beaucoup plus proche de la savane, donc avec des troupeaux très très nombreux. Il faut savoir quand même qu'un mammouth, c'est à peu près 200 kilos d'herbe par jour. Donc, vous imaginez ce que veut dire des troupeaux de mammouth. Ça veut dire quand même qu'il fallait qu'il y ait des moyens pour ça. Et donc, on est très loin des estimations qu'on peut faire sur la base des paysages actuels, type toundra, qui évalue donc la biomasse des seuls mammifères à 300 kg au kilomètre carré. Donc je dirais, même si évidemment tout cela reste sujet à caution, mais sur le plan des ressources, on a quand même le sentiment que la situation était loin d'être aussi catastrophique qu'on l'a imaginé, notamment dans les zones en plus de relief, où on pouvait assister à des phénomènes de mosaïque, si vous voulez, de paysages, qui ne faisaient que renforcer la diversité de la faune et de la flore, et pouvait aboutir, par exemple, à des situations qu'on trouve très souvent dans les habitats, qui sont la possibilité de retrouver dans un même niveau archéologique, par exemple, du cerf et du renne, ce qui est quand même, pour le moins, incongru. Donc, vraiment, il y a des indices montrent que ces ressources saisonnières étaient sans doute importantes. Et quant à leur saisonnalité, on sait que beaucoup de ces animaux, effectivement, migraient et que, de toute façon, les conditions hivernales étaient telles que la pénurie devait sans doute être très sévère. Donc je dirais que sur le principe et sur la base des éléments dont on dispose, l'idée que ces groupes aient eu une forme d'impulsion à stocker des ressources n'a rien, me semble-t-il, d'invraisemblable. Alors, la question qui se pose alors est de savoir si, oui ou non, il existe des indices matériels de ce stockage. Et là, alors les données sont extrêmement, évidemment, ténues. Je dirais qu'à la fois, il en existe et à la fois, elles sont très lacunaires. Alors, il en existe, les plus probantes se trouvent plutôt du côté des sites d'Europe centrale et orientale. Et elle repose, je dirais, d'abord sur la notion de sédentarité, puisque là, on a vraiment des campements qui posent beaucoup de questions par le fait que ce sont véritablement des architectures qui sont faites, qui étaient là de manière pérenne et qui incitent quand même à penser que là, pour le coup, la mobilité des groupes était relativement basse. Bien entendu, cette question de la sédentarité, j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais elle est essentielle puisque le stockage, par définition, va induire une très grande sédentarité, pas forcément complète d'ailleurs, hein, sur la côte nord-ouest. On voit que les gens restent à demeure dans leur maison, comme on a vu tout à l'heure, pendant 8-9 mois de l'année et peuvent ensuite vite, soit la totalité du groupe, soit une grande partie du groupe, partir pour des expéditions plus spécialisées. Mais la sédentarité, évidemment, est un indice fort, très fort même, de stockage dans ce type de contexte, puisqu'on sait qu'en plus, les ressources, il est très peu probable qu'elles aient pu être là de manière permanente. Donc voilà. Et c'est vrai que dans les grands sites, notamment en Moravie, que ce soit Dolní Vestonice, comme j'ai dit, une image virtuelle, ou les sites de Pavlov, etc., tous les grands campements de Moravie, où on a donc ces constructions en dur, et on a aussi, bien souvent, hors des habitats et dans les habitats, des fosses dont on peut raisonnablement penser qu'elles servaient à stocker des aliments. Elles sont creusées dans le permafrost, donc c'était en quelque sorte des congélateurs qui étaient là sur place, et dans certaines d'entre elles, d'ailleurs, on a retrouvé des restes de faune. Donc, je dirais que là, les indices de sédentarité et donc de stockage sont quand même parmi les plus probants. Pour ce qui est de l'Europe occidentale, les choses sont plus compliquées, dans la mesure où on n'a pas ce type de campement avec des fosses, mais ça ne présage pas nécessairement de l'utilisation de contenants ou de supports qui auraient pu servir, comme c'est le cas par exemple sur la côte nord-ouest, des supports qui sont donc faits dans des matériaux périssables et qui servaient à la conservation des aliments, du type panier, coffre en bois ou même des greniers sur pilotis, hein, c'est ce qu'on trouve tout à fait régulièrement sur la côte nord-ouest. Et donc... voilà. Donc ça, c'était voilà, c'est une image que je vous ai pas montrée. Donc ça, c'était parmi ces emblèmes, hein, puisqu'on parle réellement d'héraldique pour ce qui est de l'art de la côte nord-ouest, hein, où vous voyez ces grands mâts qu'on appelle des mâts totémiques ou héraldiques, qui sont placés à l'avant des habitats et qui, encore une fois, sont là pour légitimer, le mettre bien en évidence de façon très ostentatoire le caractère tout à fait sacré des familles qui occupent ces terres. Voilà, et le développement d'un art que je vous évoquais tout à l'heure, qui est très 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 spectaculaire et qui représente sous la forme d'animaux, mais aussi d'humains. Cet art peut avoir différentes fonctions, mais qui représente donc en général les ancêtres sacrés, mythiques des gens qui de la classe nobiliaire. Classe nobiliaire qui, encore une fois, je fais un petit saut là, je reviens sur la côte nord-ouest parce que l'image s'y prête, mais classe nobiliaire donc et donc à l'intérieur qui déjà bénéficie, si on peut dire, d'une hiérarchie très forte. Il y a des degrés dans ces chefferies, mais également donc se différencie d'autres membres du groupe, puisqu'on a une classe de roturiers qui ne sont pas directement en théorie propriétaires ni des terres, ni des zones de chasse et de prélèvement des ressources. Et puis, une troisième catégorie d'individus qui sont les esclaves. Donc, c'est vous dire si le niveau de hiérarchie chez ces chasseurs-cueilleurs est élevé. Pour ce qui est de l'Europe occidentale, donc les indices sont à la fois donc moins évidents, disons, que ceux qui peuvent exister en Europe centrale et en Europe orientale. Et en même temps, on a tout de même des choses qui sont relativement troublantes, notamment le fait qu'on a des grands sites dans lesquels les études de saisonnalité montrent que les chasses ont été effectuées de manière quasi annuelle, si ce n'est annuelle. Je pense notamment, si mes souvenirs sont bons, à la grotte d'Isturitz dans le Pays Basque, où on a des chasses qui sont très étendues sur toute l'année. Pour ce qui est de l'Europe centrale en particulier, là aussi il y a des études, c'est pas simplement la présence de ces habitats en dur et de ces fosses, mais on a aussi des études de saisonnalité qui montrent là de manière très peu discutable le fait que l'occupation semble avoir été tout à fait pérenne, puisque les chasses des faunes montrent l'intégralité des saisons sur l'année. Alors, bon, voilà, je ne dis pas du tout qu'encore une fois, on a la garantie là que les groupes du paléolithique supérieur pratiquaient le stockage, mais en tout cas, on a un certain nombre d'éléments qui, à mes yeux, permettent toutefois de poser la question. Un autre aspect tout à fait potentiellement riche d'informations est évidemment celui des sépultures, puisque en général les gens qui ont bénéficié de traitements de statuts sociaux privilégiés ont aussi je dirais que leur statut social dans la vie s'est aussi exprimé dans la mort, par l'habitude de riche avec un mobilier funéraire important, tout un tas d'attentions qui sont en général la marque justement de ce type de société à élite. Alors, les données des sépultures pour ce qui est du Paléosup, elles sont elles aussi, me semble-t-il, pour le moins intrigantes, à commencer par le premier fait qui est la rareté de ces sépultures, hein, puisque on a sur tout le Paléolithique supérieur, c'est-à-dire quand même sur 25 millénaires, on a tout au plus une centaine de sépultures connues, ce qui est quand même excessivement rare et qui, je dirais, en soi pose déjà la question de l'accès au traitement funéraire. C'est-à-dire qu'on peut déjà, par cette rareté, se poser la question de savoir si, au fond, tout le monde avait accès de la même manière à ce type, donc à l'inhumation, ou si, au contraire, ce n'était déjà pas le signe d'une classe ou d'une catégorie d'individus qui aurait donc eu un statut particulier à l'intérieur de ces groupes. Alors, ça, c'est la première chose, la rareté des sépultures. La deuxième chose, elle relève aussi, même si les exemples, pour les raisons que je viens d'évoquer, sont très peu nombreux, elle relève aussi du caractère parfois extrêmement abondant du mobilier funéraire. Alors évidemment, vous ne couperez pas à l'exemple le plus connu de tout le Paléolithique Sup, qui est celui donc de la sépulture, enfin des sépultures, devrais-je dire, de Sungir, et en particulier de cette sépulture double qui comprend donc les restes de deux enfants, et dans lequel donc on a trouvé un matériel tout à fait considérable et extrêmement travaillé, qui pose déjà par lui-même, en tout cas qui soulève un certain nombre de questions. Alors je vous décris très rapidement les choses pour pas non plus y passer la journée, mais en gros, si vous voulez, donc on a ces deux enfants qui sont donc inhumés tête contre tête, et puis on a donc un matériel, notamment un matériel en ivoire très spectaculaire, au niveau des vêtements, au niveau des vêtements des enfants, puisque, en gros, alors les âges les situent un autour de 13-14 ans, si mes souvenirs sont bons, et l'autre autour de 9 ans. Et on a, en gros, environ 4 ou 5 000 perles en ivoire qui sont cousues sur les vêtements, des couvre-chefs, des toques composés pour un au moins de 250 canines de renard. Ça, c'est pour ce qui est des vêtements. Et puis, pour ce qui est du mobilier lui-même qui accompagne les dépôts, on a donc toute cette... et c'est là où c'est quelque chose de très, quand même d'assez singulier s'agissant d'enfants. On a ce qui relève d'une forme manifestement d'armement, hein, puisqu'on a des lances, on a d'une part des javelots et des poignards en ivoire, mais on a aussi des lances en ivoire, hein, puisque on a de chaque côté, vous voyez, des longues tiges faites dans des défenses de mammouth qui ont été remises d'équerre. On a des lances qui font plus de 2 mètres pour une, 2 mètres 50 dans mon souvenir pour une, un peu plus petite pour l'autre. La plus longue devait peser environ 25 kilos. Donc autant vous dire que c'était pas des armes qui avaient une utilité très grande, si ce n'est éventuellement celle du prestige qui pouvait être associée. Et donc Sungir est évidemment l'exemple qui pose le plus question. Mais ce n'est pas le seul, même si c'est évidemment le plus spectaculaire. D'autres sépultures trouvées tout au long de la période montrent là aussi un matériel souvent rare, souvent précieux, des coquillages qui viennent de très loin, des choses comme ça. On ne retrouve pas l'abondance qui est ici à Sungir, mais on a quand même des choses troublantes, des lames aussi, des grandes lames en silex qui sont associées aux défunts. Et puis surtout, je dirais, un autre élément qui pose question, et d'ailleurs qui a été soulevé bien avant moi par d'autres collègues, c'est la présence d'enfants souvent très très jeunes dans ces sépultures. Et parfois même, on a des exemples avec des nouveau-nés. Et je dirais que ça, c'est un des arguments aussi qui soulève beaucoup de questions, puisque l'âge de ces enfants exclut que ce traitement funéraire, je dirais, soit lié à un quelconque mérite, ou en tout cas un acte de bravoure particulier, voilà, exactement. Et donc, on a réellement le sentiment là de la possibilité que un traitement particulier ait été donc acquis par hérédité et non pas sur la base de ces hypothétiques actes de bravoure. Alors, voilà pour ce qui est, d'une manière encore une fois rapide, hein, je vous prie de m'en excuser, mais voilà pour ce qui est globalement des données funéraires. Alors, il y a un autre élément qui est assez troublant, qui est que quand on associe l'ensemble de ces données que je viens d'évoquer, on s'aperçoit qu'il y a quand même une relative coïncidence entre, d'une part, les zones, donc les régions moyennes de l'Europe et auxquelles on attribue donc une biomasse importante, hein, donc des zones potentiellement aptes au stockage, la répartition des témoignages artistiques et la répartition des sépultures. Ce qui, dans la logique telle qu'on a pu l'évoquer, telle qu'elle a été évoquée par Testard, mais aussi telle qu'on la voit par exemple donc, chez les sociétés de la Côte-Nord-Ouest ou ailleurs, hein, créerait un lien entre les phénomènes, puisque, encore une fois, c'est par souci chez les groupes stockeurs de glorifier le lignage qu'on accorde un traitement funéraire particulier qui passe d'ailleurs pas forcément par l'inhumation. Hein, souvent sur la côte nord-ouest, on momifie les individus, ils sont fumés comme le saumon. Et donc, présence des sépultures et puis évidemment art lié destiné à faire valoir la souveraineté, le prestige donc de cette classe nobiliaire. Et vous voyez que même si ma carte est relativement générale, on a quand même quelque chose là qui est une forme de concentration de ces vestiges. Et je pense que cette coïncidence, même si elle mériterait d'être approfondie, et je peux vous dire que non seulement j'y travaille, mais d'autres y travaillent aussi, de manière même à pouvoir modéliser par des modèles vraiment prédictifs cette association, il semblerait quand même qu'elle puisse être confirmée. On a évoqué la question artistique et montré que dans ce type de société, l'art servait directement le pouvoir, le contrôle de l'élite. Et bon, on peut, au-delà de la question du naturalisme, on peut se poser la question de savoir si d'autres éléments propres à l'art paléolithique pourraient aller dans ce sens. Sans même se limiter à l'exemple de la côte nord-ouest, on a quand même le sentiment d'une manière générale que l'art dans ce type de société hiérarchisée est donc une manière pour elle d'affirmer son statut, d'affirmer son pouvoir et de se différencier de ceux qui ne possèdent rien. Et donc il y a une forme de fonction de marqueur identitaire. Et mon hypothèse, mais là, ça n'est vraiment qu'une hypothèse, elle est que, au fond, les propriétés de l'art paléolithique, si elles ne permettent pas de démontrer cette fonction-là, elles ne sont pas, à mes yeux, incompatibles avec une fonction, encore une fois, de type marqueur, de type héraldique, etc. Je dirais que si on regarde de manière très générale, là je n'invente rien, hein, les propriétés de cet art pariétal ou même mobilier, hein, on voit des grandes catégories qui se dégagent, qui ont été décrites par bien d'autres que moi. Et je dirais que déjà le premier point qui pourrait éventuellement matcher avec l'hypothèse héraldique, c'est celui du primat de la représentation animale, hein, puisqu'on voit que très souvent dans ces systèmes héraldiques, ce sont des animaux qui servent de référence identitaire aux familles nobles, et on voit que dans l'art paléolithique, il y a un primat de la représentation animale. Et je dirais même plus, c'est la représentation animale et elle seule qui bénéficie de ce traitement naturaliste en plus. Hein. Donc il y a là quelque chose qui va bien, qui irait bien, je dirais en théorie, avec cette notion de prestige évoquée précédemment. Une autre donnée très générale et tout à fait observable, qui est celle du caractère restreint des thèmes représentés. On ne représente pas tous les animaux, et là, il y a tous les indices hein, quand même d'un système de pensée, d'un code qui servait donc à transmettre un message. Et on voit bien là que si on a une vingtaine d'espèces à tout casser pour l'art paléolithique, ça ne renvoie pas du tout aux possibilités de représentation d'animaux, aux thématiques qui étaient présentes autour des hommes de cette époque. Donc il y a vraiment là l'idée, encore une fois, d'un choix sélectif. Autre chose qui pourrait aller dans le sens d'une fonction emblématique, le fait que les animaux sont systématiquement représentés hors de leur milieu naturel, ce qui est quand même une règle qui a perduré pendant 25 000 ans, ce qui n'est pas tout à fait rien. Quelque chose qui est discuté aujourd'hui, à mon avis à tort, mais qui est celle que le roi Gouran avait tout à fait pointée, qui est celle d'une absence de narration. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas, notamment dans les périodes les plus naturalistes de cet art, qu'il ne puisse pas y avoir des éléments narratifs liés à telle fonction, tel accouplement, tel machin. Mais en gros, on voit bien que d'une manière générale, et d'ailleurs c'est démontré à la fois par les superpositions, par les différences d'échelle, etc., il n'y a pas une volonté explicite de raconter de manière très, très, très évidente une histoire. Ça ne veut pas dire que des histoires, des mythes, tout ce que vous voulez, ne sont pas associés mentalement à ces symboles, mais en tout cas, ils ne la racontent pas de manière explicite. Autre chose qui, de manière très littérale, à mon sens, va aussi dans le sens de cette hypothétique fonction héraldique, c'est l'usage de la symétrie. Hein. On voit très, très souvent des animaux, généralement des animaux de même espèce, qui sont, à défaut de narration, qui sont organisés, agencés selon des principes symétriques qui sont intrigants, hein, du type affrontement, adossement, alignement. Bon, on pourrait faire toute une typologie comme ça de ces organisations symétriques qui manifestement avaient un sens à l'époque. On a aussi quelque chose qui, à mon avis, participe de cette fonction possible, qui est au fond l'intérêt qui est accordé aux espèces, et peut-être même dans les espèces, à la différenciation mâle-femelle. Mais on a vraiment l'impression que ce qui était important pour eux, c'était vraiment l'espèce en tant qu'elle raconte quelque chose. Et ça induit notamment le fait que dans beaucoup de grottes, on a quand même des espaces, d'ailleurs tu l'as aussi montré tout à l'heure, on a quand même des espaces sectorisés, soit par salle, soit par panneau. Mais on voit bien que ce sont très souvent des groupes d'espèces communes qui ont été représentées. Et j'irai même plus loin, d'ailleurs j'ai oublié un argument, c'est que dans mes propres travaux sur cette question-là, j'avais déjà mis en évidence, et avec d'autres aussi, que certains de ces panneaux avaient été réellement construits par espèces différentes, et non pas selon une logique narrative, justement. C'est-à-dire que, notamment, Ojula avait très bien montré ça pour Lascaux, hein, il montrait que les animaux, selon l'espèce, étaient représentés dans un ordre préétabli, et que nous, on avait une perception de quelque chose de totalement, voilà, continu, linéaire, mais qu'au contraire, ainsi, par exemple, dans le plafond du diverticule axial, c'était, alors je ne me souviens plus dans le détail, mais c'était, par exemple, d'abord les chevaux, et ensuite les aurochs, et ensuite telle ou telle espèce. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui échappait à un principe narratif, et qui, à mon avis, pourrait beaucoup plus relever de ce type de fonction d'ordre emblématique. Le parti pris d'ostentation, il existe, à mon avis, et c'est le point central de mon propos, dans le naturalisme lui-même, dans la performance naturaliste, hein, dans ce que ça signifie sur le plan social. Il existe aussi, et là on pourrait en parler longuement, mais des travaux, notamment des travaux assez récents, tendent à mettre en évidence le fait qu'on a quand même, alors ça n'exclut pas du tout le fait qu'il y ait des choses très privées, très inaccessibles, très cachées, mais on a aussi quand même une règle assez générale qui montre que plus les figures sont élaborées, plus elles sont abouties, et plus elles sont situées dans des salles ouvertes, accessibles, qui permettaient de faire rentrer du monde. Les choses en général dont on parle très souvent, qui sont les plus planquées, sont généralement des figures plus frustes. Alors, ça n'est pas une règle générale, ça n'a peut-être pas d'ailleurs fonctionné à toutes les époques, mais il ne faut pas perdre de vue que l'alliance entre ostentation publique et choses privées ne sont pas des choses incompatibles dans le fonctionnement de ces sociétés hiérarchisées. Hein. On a au contraire, je veux dire que l'accès limité, l'interdiction participe tout à fait du privilège de ceux qui, eux, effectivement, peuvent y accéder. Donc, même si on ne peut pas démontrer catégoriquement, évidemment, les choses sur ce plan-là, il y a quand même une scénographie dans certains lieux qui montre bien que l'idée, il suffit de penser à Lascaux, hein, que l'idée était quand même d'épater un peu la galerie, c'est le cas de le dire. Ensuite, dernier point, d'ailleurs qui avait été lui-même pointé par, à juste titre à mon sens, par Alain Testard, même si son hypothèse s'écarte de la mienne, qui est le fait qu'au fond, si les humains sont aussi peu présents dans l'art paléolithique, voire même totalement absents, pratiquement totalement absents, c'est précisément parce qu'ils sont représentés à travers les espèces animales. Donc il y aurait une espèce de cohérence du système là-dedans. Alors ça, ça c'est pour ce qui est, je dirais, des propriétés générales. Je voudrais terminer mon propos en pointant plus précisément le travail sur le style que je réalise et la manière dont, à mon sens, ce travail corrobore, je dirais, l'hypothèse que je vous présente. Moi, il se trouve que le travail que je fais sur les modes d'expression, ce travail m'a amené à mettre en évidence des phénomènes de répétition, de convention. J'ai pas du tout de scrupule à appeler ça des écoles, parce que je pense que ça correspond réellement à des écoles, c'est-à-dire le fait que les gens, selon des sites plus ou moins éloignés les uns des autres, ont représenté les animaux en respectant un certain nombre de conventions, et que, d'une manière très générale, et à mon avis déjà très tôt, on ne dérogeait pas à ces règles-là de représentation. Alors, je ne vais pas vous décrire en détail le style de cette production. J'espère que c'est suffisamment parlant de soi, mais bon, pour vous dire les choses très rapidement... En gros, on va dire que... alors là, j'ai replacé un tout petit échantillon de figures, mais elle se compte par plusieurs milliers. Il faut dire que dans la vallée du Koa, où j'ai identifié ce style pour la première fois, on compte déjà plus de 400 ou 500 représentations qui reproduisent, ce que je disais tout à l'heure, qui reproduisent les mêmes conventions. Mais quand on élargit un tout petit peu les observations, on s'aperçoit que sur une zone territoriale qui, en plus, à mon avis, pourrait s'étendre encore, mais à ce stade, disons, qui va de l'Andalousie jusqu'au sud-ouest de la France, en passant par l'Ardèche, on a une très très grande homogénéité de style qui repose sur trois grandes conventions qui sont d'une part donc des figures qui sont exclusivement réalisées par un simple trait de contour, mais dont la particularité réelle est que ce contour repose simultanément sur des procédés, enfin des formules géométriques récurrentes, répétitives, j'en évoquerai une ou deux tout à l'heure rapidement, et que cette manière de faire est tout à fait propre à cette production qu'on peut situer de manière à la louche, comme on dit, autour du XXe millénaire. Ça, c'est le premier trait. Le deuxième trait, c'est le fait que le traitement des membres est limité systématiquement à quelques petites exceptions près, mais je ne rentrerai pas dans ce détail-là maintenant, mais est limité à un membre unique à chaque train, et plus qu'un membre, le plus généralement, à deux segments de traits laissés ouverts, c'est-à-dire en fait, il y a une non-représentation des pattes. Ça, c'est le deuxième élément caractéristique. Et le troisième élément caractéristique, c'est l'absence totale de remplissage de ces figures. Il n'y a pas de description du pelage. Quand il y a un œil, une bouche, des naseaux, c'est déjà beaucoup. Et on voit très bien qu'il y a un grand désintérêt pour tout ce qui relève de ces informations, et qui, à mon avis, participe d'ailleurs du désintérêt pour la représentation des membres, c'est-à-dire que ne sont figurés dans cette production que les détails qui servent explicitement, et vous verrez que c'est peut-être pas un hasard, à la représentation, à l'identification de l'espèce animale elle-même. Le reste, je dirais d'une certaine manière, on s'en fout. Et donc, toute cette production est caractérisée donc par cette répétition de ces trois grands modes, de ces trois grands patterns qui s'étendent donc encore une fois sur des distances très importantes. Ça s'étend dans l'espace, ça s'étend aussi dans le temps, puisque j'ai essayé de montrer dans un précédent livre la manière dont on retrouvait ces conventions sur d'autres, en particulier à Lascaux. C'est-à-dire que je pense, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant de cette analyse assez complète et complexe, mais je pense que déjà dans le style particulier de Lascaux et de l'époque de Lascaux, puisque le style de Lascaux n'est pas limité, j'y viendrai dans une seconde, à Lascaux, on retrouve tout un tas de ces procédés conventionnels que je vous ai décrits précédemment, à commencer ici par le caractère extrêmement géométrique des tracés. Hein. À Lascaux, c'est très frappant hein, au niveau de ce jeu très, très, très curvilinéaire, qui s'exprime d'ailleurs, à mon sens, par le fait que les animaux ont ce ventre bedonnant, où vous voyez aussi cette ligne inférieure du cou hein, extrêmement longue et extrêmement étirée qu'on retrouvait déjà 3 ou 4 000 ans plus tôt dans la vallée du Koa, mais pas simplement, dans tous les exemples, enfin, quand il y a des représentations de chevaux dans tous les exemples que je vous ai montrés. Et puis, autre élément de cette pérennité de la géométrie des contours, le fait que beaucoup des aurochs qui sont représentés à Lascaux reproduisent ce profil extrêmement angulaire, très caractéristique, avec une ligne frontonasale réellement tirée au cordeau, un mufle qui s'interrompt en angle droit, et que ça, c'est aussi une tendance qui, à mon avis, est héritée de conceptions beaucoup plus anciennes. Voilà, ça c'était les exemples que j'évoquais précédemment, donc de ces constructions géométriques, dont je pense qu'elles pouvaient, alors là c'est encore une autre hypothèse, mais que je me demande, c'est pour ça que je reviens à l'idée du code et de la rigidité, c'est que je pense que là pour le coup on était vraiment dans un système formel, si vous voulez, qui cédait très peu de place à l'observation, et où, au contraire, il y avait la géométrie permettait de fixer de manière absolument irrémédiable, d'une rigidité totale, la représentation, justement en reproduisant tout un tas de gestes appris et très faciles à reproduire, fondés sur l'alternance courbe contre courbe, sur justement ces systèmes d'angle droit, etc. Et donc, je n'exclus pas, à mes yeux, que cette diffusion est aussi, cette codification a joué un rôle, cette codification fondée sur la géométrie a joué un rôle dans la diffusion, et d'ailleurs, c'est pas tout à fait par hasard, à mon sens, si c'est à Lascaux, les conventions plus anciennes reposent justement sur ces principes géométriques en très grande majorité. Comme je vous disais, Lascaux, c'est pas uniquement Lascaux, hein, c'est aussi tout un tas de sites autour. Donc vous voyez que c'est là encore, on peut parler d'école. Là, je vous ai représenté un exemplaire un peu isolé parmi d'autres, mais il y a tout un tas de sites dans le sud-ouest qui on voit bien qu'ils s'inscrivent dans la même esthétique que Lascaux. Et puis, on s'aperçoit aussi, quand on élargit là encore le champ, qu'on a des éléments, même s'ils sont fragmentaires, même s'ils sont incomplets, qui semblent tout à fait s'inscrire dans la même expression formelle. Ici, vous avez, si mes souvenirs sont bons, l'écaille du plafond d'une grotte qui est située dans les Pouilles, qui s'appelle la grotte Palici, et qui portait une peinture, et d'où vous voyez, on a parlé tout à l'heure du sabot et de l'ergot, vous voyez tout à fait ici une représentation d'une fidélité absolue, hein, au code qui se manifeste donc par le même intérêt pour le sabot et l'ergot, mais aussi le même mouvement singulier de la patte située au premier plan qui est repliée vers l'avant et qu'on trouve notamment sur la très célèbre vache sautant de Lascaux. Bon, tout ça pour vous dire que ce phénomène d'école n'est pas restreint à la production de la vallée du Coa. Or, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la question de l'apprentissage n'est pas simplement une question valider par la performance technique, parce qu'effectivement je pense que le niveau technique est tel que ça, de toute façon, ça a obligé à un apprentissage et donc à une forme de spécialisation, mais c'est aussi l'apprentissage d'un savoir pictural extrêmement particulier, extrêmement précis, de conventions extrêmement précises, et sans doute associés à ces conventions, de connaissances, de pratiques rituelles, etc. Donc, si vous voulez, je vous montre ces exemples de diffusion pour bien mettre en avant cette dimension d'apprentissage. Pourquoi, et je crois que j'ai même un troisième exemple, on en a parlé aussi tout à l'heure, hein, vous voyez que déjà, pour ce qui est de la grotte Chauvet, on retrouve ce même phénomène d'école. Là, je vais aller un petit peu vite, mais on a à la fois la répétition des mêmes thèmes animaliers, très centré sur les animaux dits dangereux, avec des conventions très particulières qui ont été repérées à Chauvet, du type les oreilles en papillon, des systèmes conventionnels. Je ne vais pas détailler cette analyse maintenant, ça serait trop fastidieux, mais qui montrent que déjà, dès les origines de l'art paléolithique, on a ce phénomène de transmission, de répétition des conventions, qui a pu s'étendre sur des distances très importantes. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que si il y a apprentissage, je pense que c'était parce que le message qui devait être transmis était de la plus haute importance. Et à mes yeux, la chose la plus importante, je trouve ça d'un cynisme effarant, mais je pense que la chose la plus importante, ce sont précisément des prérogatives économico-politiques. Je ne crois pas que les seules raisons d'ordre religieuse aient pu justifier, si vous voulez, la mise en œuvre sur le plan de la société d'un tel investissement artistique. Un exemple aussi qui vient un tout petit peu soutenir cette notion d'apprentissage, même si l'exemple lui-même reste très hypothétique, mais on a plusieurs sites connus dans lesquels on a retrouvé un très grand nombre de plaquettes dont on est frappé par, je dirais, le caractère globalement maladroit de l'exécution. C'est le cas ici des gravures de la grotte du Parpaillot qu'on a retrouvé par milliers et milliers et dans lesquelles on voit que les dessins sont extrêmement frustrés. Et surtout, ils sont extrêmement incomplets. C'est-à-dire que ça, c'est pas quelque chose de si fréquent, sauf quand c'est centré sur la partie vraiment importante de la figure. Mais un petit avant-train tout seul ou un petit arrière-train, ça peut exister dans les grottes, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fréquent. Or là, au contraire, on a tout un tas d'éléments qui montrent que là, il y a eu des choses qui, à mes yeux, pourraient s'apparenter à des exercices d'apprentis. Donc, je récapitule ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire l'étude du style montre des phénomènes de, encore une fois, de diffusion, de transmission des conventions à très grande distance qui, à mes yeux, ne peuvent réellement s'expliquer que par un apprentissage. Et si il y a bel et bien eu apprentissage, ce que la technique ne dément pas, je pense que c'était parce qu'il fallait transmettre, encore une fois, un message d'une très grande importance sur le plan sociologique. J'en arrêterai là bientôt, dans 2 minutes. L'autre phénomène qui, à mon avis, est là aussi assez symptomatique de ce type de société hiérarchisée, réside précisément dans les distances donc, de ces échanges, puisqu'on sait que dans ces sociétés hiérarchisées, tout est centré donc sur le prestige, et le prestige induit d'aller faire des affaires avec d'autres gens importants, qui peuvent parfois être situés très loin, de faire venir des matériaux particulièrement rares, particulièrement précieux, et je dirais que c'est dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs hiérarchisées qu'on observe le plus souvent ces systèmes d'échange de biens de prestige à très grande distance. Or, il me semble que le phénomène, encore une fois, de répétition des conventions sur des distances très importantes, qui dépassent les 1000 km bien souvent, est tout à fait un symptôme possible de justement de la transmission de prérogatives économico-politiques. Très concrètement, la raison pratique technique pour laquelle le style a pu lui aussi se diffuser, en particulier sur la côte nord-ouest, sur des distances très importantes, c'est parce que quand tel chef mariait sa fille ou son fils, il n'allait pas la marier avec le voisin du coin, mais il allait rencontrer un autre chef très éloigné. Et c'est dans ce système d'alliance de la classe supérieure qu'on a échange de signes, échange de blasons, qui servent justement à marquer l'affiliation, à marquer la parenté, et donc qui contribuent à la diffusion des images.